chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, à l'histoire, à l'iconographie et puis aussi à la philosophie, car aujourd'hui nous avons le grand plaisir de souhaiter la bienvenue dans notre studio, la bienvenue à Monsieur l'abbé Édouard Genot, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et historien de la philosophie médiévale. Et il nous propose aujourd'hui de nous parler de la Renaissance du IXe siècle. Bienvenue dans notre émission. Je vous laisse la parole, cher monsieur l'abbé.
Merci, madame. Je suis flatté de votre invitation. J'ai un bon souvenir de notre première rencontre qui avait été consacrée à l'école de Chartres. Au cours de cette première
émission,
j'avais parlé des trois renaissances dans le monde occidental. La renaissance du IXe siècle, la renaissance du XIIe siècle et la grande renaissance, la renaissance du XVe siècle. La dernière fois, j'avais parlé de la renaissance du XIIe siècle, celle qu'illustre les écoles de Chartres, et aujourd'hui je voudrais parler d'un représentant remarquable de la première Renaissance, celle du IXe siècle. Avec John Scott, nous sommes dans la Renaissance à son apogée, la Renaissance du IXe siècle, car on distingue en cette Renaissance carolingienne deux étapes. La première sous Charlemagne, qui, comme chacun sait, fut couronné empereur en l'an 800, et la deuxième, sous Charles le Chauve, dont le règne va de 843 à 877. Sur le plan intellectuel, la première Renaissance est dominée par un homme qui vient d'Angleterre, et de l'Angleterre du Nord, et qui s'appelait Alcuin. Et voyez-vous, j'avais évoqué aussi le thème de la translatio studi, du transfert de la culture. Parce que la culture, l'Université de Paris trouvera au XIIIe siècle que la culture va des Égyptiens aux Grecs, des Grecs aux Romains et des Romains directement à Paris. C'est évidemment très flatteur pour l'Université de Paris, mais il y a eu quand même quelques petits détours. Et il y a eu un détour par York, d'où Alcuin était issu. Charlemagne fit appel à Alcuin. Et sous son successeur, il y a eu entre Charlemagne et Charles le Chauve, il y a eu Louis le Pieux, évidemment, mais sous Charles le Chauve, nous avons un homme, une figure qui domine cette Renaissance, c'est John Scott Erigène. Il vient d'Irlande, John Scott peut-être. Le mot a varié. Au XIVe siècle, Scotus, un Scot, c'est un Écossais. Mais au IXe siècle, un Scot, c'est un Irlandais. C'est ainsi qu'à Laon, où il y avait au Moyen-Âge une grande colonie irlandaise, il y a encore une rue qui s'appelle la rue des Échos. Eh bien, c'est comme la rue de l'Étroit Degré. La rue des Échos, c'est pas la rue des Échos, c'est la rue des Scots. Donc, John Scott n'est pas le seul. Martin Scott, Cedulius Scotus, qui était à Liège, et tous ces trois grands représentants de la culture au IXe siècle étaient des Irlandais. Ce qui caractérise les Irlandais, c'est que, sur le continent au moins, ils sont les seuls à s'intéresser aux Grecs. Et cela fait que la Renaissance du IXe siècle a une originalité par rapport à la Renaissance du XIIe siècle. Au XIIe siècle, on ignorait complètement le grec. Les maîtres de Chartres ne connaissaient pas un mot de grec. Enfin, ils en connaissaient parce que beaucoup de mots grecs avaient été latinisés, mais ils étaient incapables de lire un texte grec. Voilà donc John Scott. John Scott, on l'appelle aussi John Scott Erigène. Ça, c'est lui qui s'est donné ce nom-là. Erin ou Eriu en irlandais, veut dire Irlande. Et Jena, c'est comme indigène, voyez-vous, ça veut dire né en Irlande. Éric Jena, ça veut dire né en Irlande. Jean Scott est typiquement irlandais. Et je vais vous en donner seulement un exemple. Comment conçoit-il la recherche de la vérité? La recherche en philosophie ou en théologie? Si on pose la question à un terrien comme moi, ou à quelqu'un qui vit à l'ombre de Notre-Dame de Chartres, il y a de grandes chances pour qu'il réponde que la philosophie ou la sagesse chrétienne est comparable à une cathédrale, solidement enracée dans le sol, où le peuple fidèle trouve un refuge contre les intempéries du dehors. Mais pour Jean Scott, il en va autrement. Pour Jean Scott est un marin. Jean Scott a le pied marin. Au début du livre 4 de son œuvre majeure, Le Périphicion, sur laquelle nous reviendrons, il s'apprête à traiter de problèmes ardus, à vrai dire la création de l'homme, la création de la femme, le péché originel. Et il se montre un peu effrayé devant ces... Au début, il exprime quelques craintes de s'engager sur des sujets aussi difficiles. Et puis, tout à coup, et je cite, il faut hisser la voile, il faut naviguer. La raison humaine, qui est le pilote de la navigation philosophique, la raison est là, qui se hâte. Elle ne redoute ni les sinuosités du parcours, ni les sirtes, ni les brisants. Elle éprouve plus de plaisir à exercer son pouvoir dans les mystérieux détroits de l'océan divin qu'à se reposer oisive en des eaux étales et sans obstacles où elle ne peut donner la pleine mesure de ses forces. » Fin de citation. Et ces paroles sont très révélatrices. Jean Scott a le goût du risque, un goût qu'il paiera cher, non pas de son vivant, car il ne fut pas inquiété. À la cour de Charles le Chauve, il était bien protégé. Mais plus de 3 siècles après sa mort, très exactement en 1225, le pape Honorius III condamnera l'œuvre majeure de Jean Scott, le Périphicion, un livre, disait le pape, et je cite, « où grouillent les vers de la perversité hérétique ». Je m'empresse de dire que sa sainteté Benoît XVI, en son homélie du 10 juin 2009, a fait Jean Scott un éloge vibrant et qui ne manquait pas de courage. Il a restauré Jean Scott. Pour le dire en passant, c'est ce que j'admire le plus chez ce pape. Son courage m'étonne et je l'admire. Ce n'est pas le seul exemple où le pape à la hardiesse et le courage de réparer les maladresses de ses prédécesseurs. Mais revenons à Jean Scott. Scotus, je l'ai dit, vient de irlandais, Scott. Il y a là une petite anecdote postérieure du XIIe siècle qui raconte que Charles le Chauve et Jean Scott étaient assis à la même table, l'un en face de l'autre. Et Charles le Chauve, le roi, l'empereur, demande à Jean Scott quelle différence y a-t-il entre un Scott et un sot, un sot. Et Jean Scott aurait répondu « la table seulement, sire ». Mais ceci n'est pas authentique. Parlons de choses authentiques. On le voit intervenir quand il arrive sur le continent dans une controverse théologique. Car si on l'a fait venir, c'est pour enseigner à l'école du palais. Il y avait une école au palais, vous savez que Charlemagne avait rendu obligatoire la création d'écoles dans toutes les cathédrales, dans toutes les églises importantes et dans tous les monastères. C'est le capitulaire de 789. C'est facile à se souvenir de la date. Et je m'attendais un peu quand l'an de grâce 1789, on évoqua le capitulaire de Charlemagne, mais non, il a été effacé par d'autres gloires sur lesquelles je ne reviendrai pas.
C'est en 1789 qu'on a détruit la plupart des écoles de musique, parce que
jusqu'à la Révolution,
il y en avait dans tous les villages, et après, il n'y en avait plus.
Ça, oui, c'est très curieux, ça je donc ne savais pas.
Donc c'est intéressant de créer un lien entre Charlemagne,
oui, Charlemagne crée des écoles en 789, oui, et ceci a eu lieu à Chartres aussi, sûrement ça a redonné vie aux écoles, mais qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ben, ils enseignaient le programme de cet art libéraux, celui qui est illustré par le portail royal de Chartres, n'est-ce pas, le trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, géométrie, astronomie, musique. Et ils enseignaient cela, et Jean Scott a fait cela. On a quelques témoignages de son travail là-dessus.
On a parlé de la musique. Un petit interlude de Patrick Delarbre aux orgues de Chartres. Cher monsieur l'abbé Édouard Jauneau, qui est directeur de recherche émérite au CNAS et aussi membre de l'Institut pontifical d'études médiévales au Canada, j'ai le grand plaisir de vous laisser la parole afin que vous puissiez faire mieux connaître ici sur la radio Jean Scott Érigène, qui fait partie de ce grand mouvement que l'on désigne sous la Renaissance carolingienne.
La première intervention connu de Jean Scott, c'est sur un plan théologique, une controverse sur la prédestination. Il y avait, dans le royaume de Charles le Chauve, et particulièrement dans le diocèse, l'archidiocèse de Reims, un moine allemand qui s'appelait Gottschalkus, qui enseignait une double prédestination. Dieu aurait prédestiné les uns au ciel et les autres à l'enfer. On lui demanda d'intervenir et il écrivit un De Predestinatione. Il fit d'autres travaux encore, un commentaire sur Marcianus Capella, qui est l'auteur d'un traité sur les sept arts libéraux, un commentaire sur Priscien, qui était le grammairien. Mais surtout, il apprit le grec. Et on ne sait pas comment cela s'est passé, mais c'est très beau d'apprendre le grec. Mais il n'y avait pas de manuscrits en Occident. Il n'y avait de manuscrits nulle part. Il y en avait quelques-uns à Rome, car à Rome, il y avait des monastères grecs, donc des bibliothèques grecques. Mais dans l'Occident, en France, dans la Francia, ce qui n'est pas encore la France, mais dans la Francia Occidentalis, comme dans la Francia Orientalis d'ailleurs, il n'y avait pas de grec. Sauf à l'abbaye de Saint-Denis, les œuvres de Saint-Denis l'Aréopagite, qu'on croyait être l'évêque de Paris et qui avait été offert par Michel le Bègue à Louis le Pieux en 827. Mais c'était un livre qui était peut-être plutôt considéré comme une relique qui faisait des miracles en quantité, mais que personne ne lisait, sauf un abbé de Saint-Denis qui s'appelait Hildouin. Jean Scott s'est remis à le traduire Et il a envoyé sa traduction au pape, Anastase le bibliothécaire, qui lui a répondu que c'était très bien pour quelqu'un, un homme barbare vivant aux frontières du monde civilisé, c'était pas trop mal. Mais qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre, en particulier à lire d'autres pères grecs comme Maxime le Confesseur. Alors Jean Scott, n'est-ce pas, fait venir des manuscrits, Maxime le Confesseur, Grégoire de Nice, et il s'est mis à traduire du grec. Notez bien qu'il n'y avait pas les œuvres de Platon ni d'Homère là-dedans. C'était purement des auteurs ecclésiastiques. Mais il a appris le grec et il a appris assez bien. Et l'une de ses œuvres principales, l'une des œuvres principales de Jean Scott, c'est le Periphiseon. Periphiseon, c'est un terme grec. Péri, ça veut dire au sujet de. Phiseon, c'est le pluriel, génitif pluriel de physis, qui veut dire nature. C'est au sujet des natures. Et ce livre, qui comprend cet ouvrage qui comprend cinq livres est en réalité divisé en quatre grandes parties. L'auteur distingue quatre natures. Première nature, la nature qui crée et n'est pas créée. Deuxièmement, la nature qui est créée et qui crée. Troisièmement, la nature qui est créée et qui ne crée pas. Quatrièmement, la nature qui ne crée pas et qui n'est pas créée. Un mot pour expliquer cela qui peut paraître de l'hébreu. La nature qui crée et n'est pas créée, c'est Dieu dans son essence. Dieu crée mais n'est pas créé. La nature qui est créée et qui crée, c'est les idées archétypes que Dieu crée en lui-même et que Jean Scott appelle les causes primordiales de toutes choses. La justice, la vérité, la bonté, etc. Ces choses sont créées, ces idées primordiales sont créées et elles sont en même temps créatrices. La troisième division, la nature qui est créée et qui ne crée pas, c'est toutes les choses qui nous entourent ici, la table, le microphone, etc. Ça, c'est la nature qui est créée et qui ne crée pas. Ah non, pardon, ça c'est le troisième, c'est la nature qui est créée et qui ne crée pas, j'ai bien dit, mais c'est le troisième. Le quatrième, c'est la nature qui ne crée pas et qui n'est pas créée, c'est Dieu lui-même encore à la fin de toutes choses, à la fin des temps, et qui est pas créé et qui ne crée pas. Ce livre est très important, cet ouvrage est très important. J'en ai fait une nouvelle édition en 5 volumes, car nous avons à la fois le bonheur et la difficulté de posséder l'exemplaire de travail de Jean Scott. Nous connaissons son écriture, les Irlandais avaient une écriture très particulière. Et dans cet exemplaire de travail, il y a deux types d'écriture irlandaise, le numéro 1 et le numéro 2, et l'une est peut-être celle de Jean Scott, et je crois que nous la connaissons, et l'autre n'est certainement pas celle de Jean Scott. Et celle qui n'est pas de Jean Scott est celle de quelqu'un qui se permettait, un disciple qui se permettait de corriger son maître.
Monsieur l'abbé Genoux, Édouard Jauneau, historien de la philosophie médiévale, nous parle aujourd'hui de Jean Scott Erigène et il va terminer la troisième partie de notre émission en nous donnant quelques extraits des citations de cet ouvrage majeur, le Périphysion de Jean Scott Erigène.
Ce Périphysion a été appelé jusqu'ici « De divisione naturae ». J'ai démontré que ce n'était pas le bon titre. Malheureusement, tout le monde continue à l'employer, y compris sa sainteté Benoît XVI. Mais cet ouvrage est remarquable quand on le suit. Et les deux sources de connaissance pour Jean Scott sont l'écriture et la nature. Il y a deux sources de connaissance. Il y a deux livres que Dieu met à notre disposition pour se révéler, la Sainte Écriture qui contient ses paroles et le livre de la nature. Et voici comment Jean Scott en parle. Seigneur Jésus, je cite Jean Scott, « Seigneur Jésus, je ne te demande aucune récompense, aucune autre béatitude, aucune autre joie que celle de parvenir à la pure intelligence de tes paroles, de ces paroles qui ont été inspirées par ton Esprit Saint. Tel est bien le comble de ma félicité et le but d'une parfaite contemplation. L'âme rationnelle, même la plus pure, ne trouvera rien au-delà, puisqu'il n'y a rien au-delà. » Une fois je citais ça, c'était à Strasbourg, à l'université, et un collègue m'a dit « Quoi ? Au-delà de l'intelligence, il y a l'amour tout de même. » Oui, et c'est vrai, mais il y a les deux tendances dans l'Église, n'est-ce pas ? Ceux qui mettent Dieu comme intelligence et comme amour. Dieu est amour, on ne peut pas le contester. Mais c'est une vérité qui est l'objet de notre amour. Nulle part, et je reprends Jean Scott, nulle part on ne saurait plus adéquatement te chercher, nulle part on ne saurait plus évidemment te trouver que dans tes paroles. C'est là que tu habites, là que tu introduis ceux qui te cherchent et qui t'aiment, là que tu prépares à tes élus les mets spirituels de la vraie connaissance, là que tu passes pour les servir. Et qu'est-ce que ton passage, Seigneur, sinon l'ascension de l'échelle infinie de ta contemplation? Sans cesse, en effet, tu opères ce passage dans les intelligences de ceux qui te cherchent et te trouvent. Sans cesse, il te cherche, sans cesse, il te trouve et ne te trouve pas. Sans cesse, il te trouve en tête théophanie, manifestation créée de la bonté incréée. À travers elle, comme en des miroirs, tu te manifestes de maintes façons aux esprits de ceux qui te saisissent par l'intelligence, dans la mesure où tu permets qu'une intelligence saisisse non ce que tu es, mais seulement ce que tu n'es pas et que tu existes. Tu demeures introuvable dans ta surescence. Par elle, tu passes et surpasses tout intellect qui voudrait s'élever jusqu'à te comprendre. Tu sers aux tiens ta présence en leur apparaissant d'une manière ineffable. Tu passes à côté d'eux par l'incompréhensible sublimité et l'infinité de ton essence. Voilà, c'est tout à fait ce que Jean Scott pense. Et ces paroles sont un commentaire de du maître, de la parabole du maître qui revient tard et qui trouve ses serviteurs réveillés. Et en vérité, dit Jésus, le maître mettra sa ceinture et passant au milieu d'eux, il les servira. Et c'est ce thème biblique qui est sous la magnifique période que je viens de lire. Jean Scott exalte l'écriture, assurément, mais il estime aussi la nature. Et comme la nature, ceux qui ont conquis la nature par l'intelligence, ceux qui l'ont expliqué, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont les philosophes anciens, les philosophes grecs. Et il admet que le chrétien, empruntent aux païens les vérités qu'ils ont trouvées par leur intelligence seule, car c'est encore Dieu qui leur a donné sa révélation par là. Et je veux dire finir par une citation de John Scott encore. Il s'ensuit très clairement que rien n'est désirable si ce n'est la joie de la vérité, gaudium de veritate, comme dit saint Augustin, vérité qui est le Christ, et que rien n'est à fuir que son absence, absence qui est la seule et unique cause de la tristesse éternelle. Retirez-moi le Christ, aucun bien ne me reste, aucun tourment ne m'effraie, car la privation du Christ et son absence sont le tourment de toute créature raisonnable et rien d'autre, je suppose. Après plusieurs siècles, ces paroles nous émeuvent. Elles ont ému Benoît XVI, qui conclut l'homélie dont je parlais, donnée en 2009. Ces mots, dit-il, peuvent nous étonner et nous pouvons les convertir en prière à celui qui est aussi le désir de nos cœurs. Je termine sur ces paroles pontificales.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Vous nous avez parlé magistralement de Jean Scott Erigène qui participe à la Renaissance carolingienne. Et si les auditeurs voudraient replonger dans la philosophie médiévale, je peux leur conseiller le Que sais-je que l'abbé Édouard Jeannot, qui nous a parlé aujourd'hui, a rédigé pour les presses universitaires de France, où il expose de façon aussi claire que dans cette émission aujourd'hui, les trois grandes renaissances qui ont marqué l'histoire dans l'Église. Et merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'avoir cité Benoît XVI, qui a mis à l'honneur tous ces auteurs trop peu connus. Et vous êtes encore parmi ces abbés qui connaissent et le latin et le grec. Et grâce à cette connaissance, vous avez pu lire les auteurs dans les manuscrits d'origine, ce qui est important pour comprendre la pensée qui a présidé à tous ces ouvrages qui ont ensuite fait la réputation de l'école de Chartres, que vous connaissez aussi très bien. Et vous avez écrit un ouvrage sur l'école chartraine. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Nous terminerons cette émission avec un peu de musique. Patrick Delarbre, l'organiste aux grandes orgues de Chartres avec Bach. Et je vous dis au revoir et merci beaucoup, monsieur l'abbé. À très bientôt.